18h au studio Kalangou, tout de suite le journal en français présenté par Rayla Tsoumana. Au sommaire de cette édition, les trois leaders de la société civile nigérienne sont aujourd'hui à Maradi, en provenance d'Agadez, où ils avaient été empêchés de mener toute activité. Vous entendrez la version du gouverneur d'Agadez, mais aussi de l'un des trois leaders que nous avons interrogé à son arrivée à Maradi. Le reportage de cette édition est consacré à la médecine traditionnelle, une pratique très présente dans les pays en voie de développement, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Et dans un bref récit, Studio Kalangou vous propose dans la partie magazine l'histoire de la chefferie de Menesoroa dans la région de Diffa, racontée par un notable de la dite chefferie. Bonsoir à tous. Les trois leaders du cadre de concertation et d'action citoyenne sont arrivés aujourd'hui à Maradi conformément à leur agenda, même si leur activité avait été empêchée à Agadez. À Agadez, hier, le juge leur avait donné raison face à l'interdiction de séjour décidée par la municipalité. Plus de précisions avec Moussa Tchangari, membre du dit cadre, après son arrivée à Maradi en fin de matinée.
Ce qui s'est passé a montré aux gens de la gravité de la situation. C'est-à-dire que même si on avait pu tenir les conférences, on n'aurait pas apporté autant d'éléments aux gens pour leur montrer que ça ne va pas dans le pays. Donc nos camarades de Maradi, on a pu les laisser donc venir nous accueillir à l'aéroport. Le gouverneur de la région, il a écrit à nos camarades ici pour leur dire, bon, j'ai appris que les acteurs de la société civile vont venir ici. Moi, je leur propose d'aller visiter une des réalisations du gouvernement. Ils s'attendaient peut-être à ce qu'on dise parfois visiter votre hôpital de référence. Ils vont dire, voilà, ils ne veulent pas voir les bonnes choses, ils ne veulent parler que des mauvaises choses. Oui, on va aller regarder l'hôpital de référence. C'est un petit jeu, mais au moins, il n'a pas fait comme le gouverneur d'Agadez.
Propos recueillis par Soumana Amadou. Les débats occasionnés ça et là suite à l'interdiction imposée à Agadez aux trois leaders de la société civile de tenir des conférences et de séjourner dans la ville. Le premier responsable de la région est sorti de sa réserve. Le gouverneur Sadou Soloké a donné hier à Agadez sa version des faits au micro de notre correspondant local Moussa Maman.
Il se trouve que les documents qu'ils ont introduits ne sont pas conformes à la loi 2004-045 qui organise le secteur des manifestations. Sur cette base donc, l'exécutif de la commune urbaine d'Agadez a pris un arrêté d'interdiction de la manifestation. Il y a un second problème. Dans la journée du 28, des informations insistantes, abondantes, faisaient courir un risque à l'un parmi eux. Si d'aventure il pénétrait à Agadez, nous avons pris la chose au sérieux et c'est pourquoi nous avons estimé que nous devrons le protéger contre de telles menaces. Nous avons eu l'opportunité de leur faire un voyage retour par avion. Ils l'ont décliné. Nous n'avons pas trouvé d'inconvénient. Ils ont souhaité continuer leur séjour jusqu'à la date prévue par leur mission. Et nous avons donc dû prendre les dispositions pour les mettre dans des conditions d'existence plus décentes.
Réaction hier à Niamey du cadre de concertation et d'action citoyenne dont les trois leaders étaient pendant deux jours dans une situation particulière à Agadez. Ce regroupement de la société civile du Niger a déclaré être inquiet de l'état de droit au Niger, mais aussi de la démocratie nigérienne. Un extrait avec Halidou Moukaila, un des membres du DICADRE, au micro de notre reporter Moutari Mamadou.
La seule information donnée à nos camarades, c'était qu'ils n'ont pas le droit de sortir de l'aéroport pour se rendre dans la ville d'Agadez. Nous pensons que c'était une situation qui pouvait être traitée le plus urgentement que possible, parce que nous savons que dans l'histoire de notre pays, nous n'avions jamais vu où on empêche à un citoyen nigérien de pouvoir circuler librement sur le territoire nigérien. Il nous revient en tant qu'organisation de la société civile de nous inquiéter par rapport à la démocratie de notre pays, de nous inquiéter par rapport à l'état de droit.
La mésaventure des leaders de la société civile nigérienne à Agadez occupe le devant de l'actualité cette semaine au Niger. Pour Amadou Adamou Bachir, doctorant en droit à l'Université de Toulon en France, la posture des autorités de la région d'Agadez est une violation de la Constitution. Il est au téléphone avec Mokhtar Hamadou.
Le caractère unitaire de l'État du Niger ne peut pas souffrir d'aucune ambiguïté puisqu'elle est consacrée dans notre constitution. Donc ce qui permet aujourd'hui de dire que tout Nigérien a le droit et c'est une liberté fondamentale qui est consacrée par l'article 32 de notre constitution qui dit que l'État reconnaît et garantit la liberté d'aller et venir. Donc tout Nigérien peut, en toute liberté, se déplacer sur l'ensemble du territoire national sans y être empêché. Tout le monde a assisté justement à une telle situation inédite. Aujourd'hui, c'est comme si c'est un tribunal populaire qui est en train de condamner M. Nouazeka et non les juridictions compétentes. Donc, à mon avis, le conseil régional d'Agadez s'est substitué à un tribunal pour rendre une décision. Parce que le conseil régional d'Agadez n'a pas cette compétence pour interdire à un Nigérien l'accès en fait sur le territoire national.
La Commission nationale des droits humains, CNDH, vient de condamner le confinement des acteurs de la société civile les 29 et 30 août à l'aéroport international Manou Dayak d'Agadez par les autorités régionales. Mais aussi le chef d'antenne de la CNDH à Agadez a été empêché de leur rendre visite. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre aspect de ce journal, le Niger commémore aujourd'hui la 16e journée africaine de la médecine traditionnelle qui a pour thème la fabrication locale des produits médicaux issus de la pharmacopée traditionnelle dans la région africaine. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% des populations des pays en voie de développement font recours à cette médecine. Comment devient-on et comment choisir son tradipraticien? Réponse dans ce reportage de Studio Kalangou. La majorité des tradipraticiens héritent du métier, déclare Harouna Al-Mustapha, membre de la coopérative d'herboristerie Banitouri. Âgé de 48 ans, Harouna est diplômé en maintenance informatique, mais à défaut d'un emploi dans sa spécialité, il s'est reconverti dans la médecine traditionnelle, un métier qu'il a appris et aimé au cours de ses 15 années de pratique. Harouna attire l'attention des patients quant au choix de leurs praticiens, notamment ceux qui apprécient négativement la pratique. Une meilleure collaboration avec les médecins, c'est ce que souhaite Harouna Al-Mustapha pour que les populations adhèrent encore plus à l'utilisation des produits de la médecine traditionnelle. Toujours en santé, opération de démoustication mercredi au quartier Talagi de Niamey, un geste apprécié par les habitants de ce quartier qui ont néanmoins tenu à insister sur l'assainissement comme moyen de lutte contre la propagation des moustiques. Écoutons-les au micro de Rukayatou Abdraman.
Effectivement, la nuit du 29 août, il y avait eu une opération de démoustication dans tout le quartier et nous sommes heureux de constater la diminution des moustiques. Nous souhaitons bénéficier de ce genre d'opérations chaque semaine si possible. Hier nuit quand même, nous avons bien dormi.
Il faut avertir toute la population de Salagi pour assainir. Mais tant qu'il y a la saleté, c'est comme zéro.
Un avant-projet de décret sur la redevance des médias nationaux et internationaux a été remis cette semaine par le Conseil supérieur de la communication au ministre de la Communication. Un texte élaboré par le CSC est proposé au gouvernement pour l'examiner, espérant son adoption et sa mise en application. Les explications du premier rapporteur du CSC, Seyne Ayoub Kaka, au micro de Moussa Hassan.
En fait, c'est un projet de décret sur la redevance. Vous savez, c'est seulement au Niger que depuis une vingtaine d'années que les médias étrangers et même les médias locaux exercent librement sans verser la redevance qui existe un peu partout dans le monde, dans la sous-région, au Bénin, au Mali, au Burkina Faso, il y a cette redevance. Ici au Niger, les chaînes internationales qui ont envahi pratiquement tout le territoire national exercent sans verser un rond à l'État nigérien. Donc nous, on s'est inspiré de l'expérience des autres pays pour élaborer d'abord une délibération au cours de notre session pour fixer des montants annuels de redevances pour chaque type de média. Et on a proposé un projet de décret. C'est ce projet de décret qu'on a remis au ministre par intérim de la communication. Les médias nationaux vont également payer cette redevance, mais c'est vraiment à moindre frais quand on compare avec les médias internationaux.
Propos recueillis par Moussa Hassan. 100 mm de pluie en 3 jours, c'est comme un déluge qui s'est abattu sur la commune rurale de Tabelote, région d'Agadez. Habituée plutôt à l'équivalent de ce volume d'eau sur toute la durée de la saison des pluies. Les précisions avec Souleymane Alichina, chef district agricole de Tabelote, au micro de notre correspondant Moussa Maman.
La pluie qui a causé le plus de dégâts, donc elle s'est abattue du 14 au 15 août. Donc ce jour-là, il a plu plus de 75 mm en 1h20. Et ça, ce cumul-là, c'est ce qu'on a l'habitude d'enregistrer dans l'année, les années antérieures, en 2014-2015. Ça, c'est dans l'année qu'on a enregistré ça. Donc, 2 jours après, le 17 précisément, il a plu 19 mm. Ensuite, le 18, il a plu 15 mm. C'est-à-dire, c'est des pluies successives, quoi. Donc, en ces 3 jours-là, nous avons cumulé 100 mm. Ça, c'est le cumul de l'année de la région d'Agadez ou bien dans, vers le sud. Donc, la pluie, là, vraiment, elle a fait beaucoup de dégâts. Donc, le même jour, sur le mont Bagzan, on a enregistré, sur le poste pluviométrique du mont, 60 mm. Il y a un poste pluviométrique aussi à Nwajot qui a enregistré 65,6 mm. Il y a des dégâts sur les vies humaines. Il y a eu beaucoup de morts, de blessés. Il y a eu des dégâts sur les jardins. Beaucoup de cultures ont été emportées.
Le studio Kalangu vous propose un bref historique de la chefferie de Meynosoroua, vieille de plus de 3 siècles, racontée par Aboubakar Mala Moussa, par ailleurs directeur départemental de la culture de Meynosoroua. On l'écoute au micro de Mama Ada.
La chefferie de Méné a aujourd'hui 335 ans d'existence. Elle a vu le jour depuis 1637. Les premiers habitants sont venus du Yémen en passant par le Bornou. Ce sont des pasteurs cultivateurs. À l'approche de l'entrée coloniale, ils ne sont pas encore arrivés. C'était un guerrier appelé Rabat, un originaire du Maroc, au cours de ses tournées, pour qui son idéal c'est d'occuper par la guerre la zone visitée, où il laisse ses représentants. Alors, il envoie son fils à Patarala pour remettre un message qui annonce au chef de cette contrée son arrivée pour que celui-ci se prépare à une guerre de soumission. Le chef répondra au messager qu'il est prêt pour combattre. C'est en ce moment que les marabouts et féticheurs du chef de l'époque de Kachala Abdou ont mis en synergie leur pouvoir du culte pour la défense du terroir. Alors quand les guerriers de Rabat sont arrivés, ils n'ont pas pu voir la ville pendant que les habitants de Maïné se sont camouflés derrière des buissons armés d'arcs et de flèches avec lesquels ils tiraient les combattants de Rabat qui tombaient un à un de leur monture. Étonnés, ils regardaient dans tous les sens et ne voient pas les tireurs. Ils se posaient la question, mais au juste, d'où proviennent ces flèches? Acculés, ils se sont dit que cette ville ne peut pas être conquise et ils se sont repliés. Alors, depuis la création de cette chefferie, combien de chefs se sont succédés? 10 chefs se sont succédés, mais il y a eu 11 intronisations parce qu'il y a un chef qui, après une première intronisation, a été détrôné et ensuite il est revenu aux commandes. Le premier chef s'appelle Digedi Komi. Après lui, Lon Marouma. Il y a Lon Kadre, Boulama Nassar, Kachala Abdou Bouti Kolomi. C'est le premier à recevoir le titre de Kachala. Jusqu'aujourd'hui, il détient ce titre. Il y a Kachala Abdou Dungourma. C'est lui qui a régné 2 fois. Après lui, il y a eu Kachala Liman, qui a tué un colon.
Par ce fait, les colons ont décidé de décimer la population de la ville ou, en échange, que le chef leur remette 7 de ses plus proches collaborateurs. Alors, il a rejeté la sollicitude des colons en disant qu'il va se remettre aux colons, toutefois qu'ils acceptent d'épargner son peuple. Accepté, il s'est remis et les colons l'ont fusillé. Actuellement, il y a son tombeau ici à Méné, qui est devenu un site historique où des mosquées ont été construites. Après donc Kachar Laliman, il y a Kachar Lagasso, qui a le même nom que le chef actuel.
Ainsi prend fin ce journal en français. Place à présent au Forum de la presse avec Mokhtar Hamadou.